Session sur la procréation, deuxième journée, 26 février 1990, le statut de l'embryon d'après les pensées actuelles. Exposé de frère Martin.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un article de la revue Esprit qui est paru dans la revue Esprit l'an dernier, en juin. La revue Esprit, donc, qui a été fondée par Emmanuel Mounier entre les deux guerres en 1932. Et cet article donc, s'interroge sur le statut de l'embryon. Le titre de l'article Esprit, c'est « Qu'est-ce qu'un embryon ?» Alors l'intérêt de l'article, c'est qu'il présente un panorama de la réflexion philosophique sur le statut de l'embryon aujourd'hui. Il montre donc que s'interroger sur l'embryon, ce n'est pas quelque chose qui est dépassé, c'est quelque chose qui est très actuel, en particulier à cause du problème, bien sûr, de l'avortement et de la fécondation artificielle, donc ce qu'on a déjà vu un peu hier soir. L'article montre aussi, c'est son autre intérêt, la nécessité et l'importance d'une réflexion philosophique et théologique sur ce sujet. Et cette réflexion philosophique et théologique sur le statut de l'embryon englobe le problème qui nous occupe particulièrement aujourd'hui, qui est celui d'animation spirituelle de l'embryon. C'est ce problème de savoir quand est-ce que l'embryon reçoit une âme spirituelle n'est pas complètement oublié aujourd'hui dans la réflexion philosophique. Alors, en même temps, il faut dire tout de suite que c'est plus du tout au cœur du débat, ce problème de l'animation spirituelle. Et en fait, seule l'Église le mentionne encore dans ses textes officiels. Donc, le débat sur le statut de l'embryon aujourd'hui, en fait, pose deux questions. Il se concentre, si vous voulez, sur deux questions. Est-ce que l'embryon est une personne ? Et si oui, embryon humain, à partir de quand? Donc le statut, on pourrait dire ontologique de l'embryon, et puis à partir de quand, le comment apparaît cette personnalité, si jamais elle apparaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, je disais que le problème de l'animation spirituelle de l'embryon n'était plus évoqué explicitement que par l'Église dans ses documents officiels. Voilà les questions sur lesquelles on débat, mais ça, on peut se demander si ce n'est pas une version laïque, laïcisée, des interrogations des théologiens sur l'animation spirituelle de l'embryon. Alors, vous voyez pourquoi on se pose ces deux questions, c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui de protection de l'embryon. Face à l'avortement, face à la fécondation artificielle. Et là où il y a débat, c'est qu'il n'y a aucun consensus actuellement sur les fondements philosophiques d'une protection de l'embryon. Il y a un certain accord et il y a une grande divergence. L'accord, quand on réfléchit sur le statut de l'embryon, c'est sur deux principes. Et des principes, en fait, qui viennent de Kant, comme dernier relais. Le premier principe, c'est tout le monde est d'accord pour dire que le respect dans les problèmes éthiques ne concerne que les personnes, et non pas les choses. Donc on lit respect et personne. Le respect regarde une personne humaine. Et en même temps, on lit la caractéristique d'une personne. On dit, personne, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que c'est une personne? Donc, une première réponse, ça sera de dire qu'une personne, c'est un être raisonnable. là, on voit que c'est une la reprise dans des termes, enfin la reprise d'une vieille définition qui remonte à Boès. Alors ça, tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est très vague. Parce que ensuite, tout le monde diverge pour savoir quand apparaît justement l'être raisonnable. Et la divergence, si on veut pousser les positions qui sont tenues actuellement, va entre deux extrêmes. Il y a, pour certains, c'est ce qu'on appelle le courant vitaliste. C'est le nom que vous trouverez. Le courant vitaliste tient pour un critère biologique de la personne, de l'être raisonnable. Donc c'est un peu ce qu'on a vu hier soir avec la conférence du professeur Giraud. C'est-à-dire que vous définissez comme une personne, comme un être raisonnable, quiconque possède le génome humain. Le génome humain, c'est-à-dire les 46 chromosomes qu'on a vu hier soir. Et puis, il y a la position à l'autre extrême, qui est couramment dénommée le courant relationnel. Ceux qui appartiennent dans ce débat sur l'embryon au courant relationnel adoptent, récusent le critère biologique de la personne et prennent un critère qu'on pourrait dénommer éthique. Et donc, selon ce critère éthique, on est une personne quand on possède suffisamment de conscience et de raison pour exercer une autonomie morale. On verra qu'au-delà de ces deux positions extrêmes, il y a eu, par la force des choses, parce qu'il fallait bien déterminer une règle de conduite, l'émergence d'une position moyenne qu'on pourrait dénommer pragmatique, si vous voulez. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une telle difficulté à savoir quand est-ce que l'embryon est une personne, quel est le bon critère pour savoir si on a une personne humaine ou non, on ne s'interroge plus là-dessus et on essaie simplement d'établir des règles avec un certain caractère arbitraire. Alors la première chose qu'on va voir, qu'on va regarder, on va essayer de mieux comprendre, de regarder ce courant vitaliste, donc ceux qui prônent un critère biologique pour déterminer s'il y a personne humaine chez l'embryon ou non. Premièrement, le courant vitaliste. C'est-à-dire le critère biologique. Et d'abord, on va expliciter un peu la position elle-même. Alors c'est une position qu'en fait on connaît assez bien. Elle consiste à dire donc que la personne est coextensive à l'organisme qui la sous-tend. Donc il y a ce lien entre la personne humaine et l'organisme. S'il y a ce lien entre la personne humaine et l'organisme, la personne humaine apparaît donc dès la conception, dès le premier moment de la conception, dès qu'il y a organisme humain, donc par la rencontre des gamètes, ce qu'on a vu hier soir. Cette personne humaine qui apparaît donc à la conception continue jusqu'à la mort. Donc vous voyez pourquoi on dit critère biologique, parce que justement la biologie, comme on l'a bien vu hier soir, montre que la capacité d'un développement pleinement humain est donné dès le premier moment de la conception au moment où se constitue le zygote. Donc vous voyez que cette thèse vitaliste identifie, c'est la thèse même, vie humaine et personne humaine. Alors évidemment, quand on voit qui défend cette position, il y a un certain paradoxe, parce qu'on constate que ceux qui défendent cette position biologique, vitaliste, sont en même temps des personnes qui sont persuadées de la destinée spirituelle de l'homme. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a personne humaine, dès qu'il y a un organisme humain, enfin, dès qu'il y a une cellule possédant un potentiel de développement humain, et en même temps vous dites que l'homme ne se réduit pas à son corps. Donc là, il y a un certain paradoxe. Mais ce paradoxe n'est qu'apparent parce qu'en fait, sous-jacent, il y a le problème de l'animation spirituelle de l'embryon. C'est-à-dire que, au-delà de l'organisme visible, il y a une âme spirituelle. Et donc là, on aboutit au problème qu'on soulèvera aujourd'hui de l'animation spirituelle de l'embryon. Donc c'est cette position vitaliste... implique un grand débat sur le moment où Dieu crée l'âme chez l'embryon. Donc c'est le débat sur l'animation de l'embryon. Alors, juste une remarque, ce débat donc a été traité philosophiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, maintenant, il n'y a plus guère que les théologiens qui le soulèvent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, bon, je vais passer rapidement parce que ça, on le sait mieux, mais vous savez donc qu'il y a plusieurs thèses en présence sur quant à savoir quand l'âme spirituelle est insufflée dans l'embryon. Il y a une première thèse qui est celle de Tertullien, à l'origine, qui consiste à dire que Dieu a insufflé l'âme spirituelle une fois pour toutes chez nos premiers parents, Adam et Ève, et ensuite elle s'est transmise à leur descendance. Alors cette thèse a été rapidement abandonnée parce qu'en fait elle applique la présence de l'âme spirituelle dans les gamètes, même ceux qui ne seraient jamais fécondés. Alors, la thèse numéro 2 défendue à l'origine par Grégoire de Nyssa autre théologien père de l'Église, c'est la thèse qu'on appelle de l'animation immédiate. Qui est celle qu'on retrouve couramment aujourd'hui. Donc, animation immédiate, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu crée l'âme immédiatement dès le premier moment de la fécondation. Et puis, il y a une troisième thèse, qui est celle de saint Thomas, et donc qu'on appelle l'animation médiate. Pourquoi médiate ? Parce qu'on considère que Dieu crée l'âme, non pas dès le premier moment de la conception, mais simplement lorsque l'embryon est suffisamment développé pour exercer une activité spirituelle. Donc c'est ce qu'on verra plus longuement tout à l'heure. Alors vous voyez tout de suite que cette thèse de l'animation immédiate est celle qui paraît s'accorder le mieux avec le critère biologique, puisque ce qu'on a vu hier soir, c'est que dès le premier moment de la conception, l'œuf, la première cellule embryonnaire, possède tout le patrimoine génétique du futur individu. Mais il faut se garder de faire aussi cette correspondance trop immédiate entre la thèse de et la biologie, parce que même la biologie montre l'importance du développement de l'embryon. Est-ce qu'on a vu hier soir quand le professeur montrait que ça n'avait pas grande allure humaine jusqu'à la fin du deuxième mois? Et même au point de vue biologique, le biologiste sait bien que l'embryon, le fœtus, se détermine lui-même dans sa structure, je sais pas, le réseau des veines, etc., le réseau des neurones, au cours de son développement. Et puis, il faut quand même parler des problèmes que soulève cette thèse. Bon, on l'a déjà vu hier soir, il y a le problème de toute cette élimination des œufs déjà fécondés, quand le professeur Giraud parlait de la moitié des œufs fécondés qui dégénéraient spontanément. Donc ça paraît un peu curieux, enfin, il y a un problème là, en tout cas, savoir si Dieu infuse l'âme dès la fécondation, ça aboutit à des avortements spontanés dans la moitié des cas au minimum. Et puis, il y a, si on regarde la pratique des églises, les églises chrétiennes n'ont jamais baptisé les fausses couches. Alors que la thèse 3, celle donc défendue par saint Thomas d'Aquin, et ça on le reverra, donc je passe rapidement, évidemment on retrouve la conception aristotélicienne du développement embryonnaire. Conception aristotélicienne du développement de l'embryon qui montre que on ne devient pas l'embryon ne devient pas immédiatement ce qu'il est appelé à devenir en propre. C'est-à-dire que on est d'abord, dit Aristote, animal avant d'être cheval, animal avant d'être homme. C'est simplement au terme du développement de l'embryon que celui-ci devient ce qu'il est vraiment en propre. Donc dans le cas d'un embryon cheval, cheval, et dans le cas d'un embryon humain, homme. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, parce que ça c'est intéressant particulièrement pour nous, c'est un peu quelle est aujourd'hui la position de l'Église. Donc vous voyez, il y a eu une diversité au sein même de l'Église, des théologiens de l'Église, sur ce problème de l'animation de l'embryon. Alors qu'est-ce que, dans les documents que l'Église a fait paraître récemment, qu'est-ce qu'on peut discerner comme position? Alors il y a deux textes de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur lesquels je m'appuie. Il y a le texte de 1974 sur l'avortement provoqué, une déclaration sur l'avortement provoqué en 1974, et puis la fameuse instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation d'Unum Vitae, le cardinal Ratzinger. Donc ça, c'était en 1987. Alors, si on essaye de comprendre un peu la position de l'Église, je crois qu'il y a trois points. Le premier point, c'est par rapport, puisqu'on discute, on essaie de regarder ce critère biologique, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Église reconnaît en partie la validité de ce critère biologique. Donc, le critère biologique, si vous voulez, se retrouve dans les documents de l'Église, mais l'Église n'y adhère pas aveuglément. Bon, dans le texte de 1974 sur l'avortement, on voit que l'Église, enfin cette déclaration en tout cas, s'appuie sur ce que montre la science génétique moderne. Ainsi, dans le document, on lit « Dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme. Cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. » Bon, ça, ce genre de langage, ça vient de la science génétique, hein, c'est ce qu'on a vu hier soir. Mais, et ça se voit plus dans le texte de 1987 que dans le texte de 1974, on voit que l'Église n'affirme pas explicitement la validité de ce critère biologique pour savoir s'il y a personne. Elle laisse, si vous voulez, un point d'interrogation. Et ainsi, dans le texte de 1987 du cardinal Ratzinger, l'expression qu'on trouve, c'est « Comment un individu humain, sous-entendu ce qui est présent dès le premier instant de la conception, ne serait-il pas une personne humaine ? Point d'interrogation. L'Église, second point, refuse de trancher ce débat sur lequel on s'interroge aujourd'hui. Elle n'a pas dit la thèse de saint Thomas est la juste ou la thèse de Grégoire de Nyssa est la juste, est la bonne. Et puis, puisqu'il s'agit de documents pastoraux, donc l'Église donne des conseils pratiques, montre quelles sont les conséquences éthiques de ce qu'elle tient pour juste. Et là, c'est surtout au niveau de ses conséquences éthiques où l'Église dit, même s'il y a un point d'interrogation sur le fait que la personne humaine est dès le premier moment de la conception, même si on ne tranche pas le problème de l'animation spirituelle, il n'empêche que l'embryon humain doit être traité comme une personne dès le premier moment de la conception. Donc c'est en 1987, le texte dit « L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception. Et donc dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne. » Vous voyez, au point de vue pratique, vous devez le traiter comme une personne, même si au point de vue spéculatif, vous n'en êtes pas absolument sûr. Et donc, ceci explique que l'Église condamne sans appel l'avortement et interdise la plupart des manipulations sur l'embryon, au point de vue pratique. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de montrer la prudence de l'Église, qui ne veut pas s'identifier avec la position vitaliste, et puis en même temps, au point de vue pratique, son intransigeance, sauf exception. Alors, bon, on a vu un peu donc cette position de ceux qui tiennent pour le critère biologique. Évidemment, les tenants du camp opposé protestent et ils trouvent cette position absurde. Ils considèrent absurde de voir dans une personne, de voir dans l'embryon une personne, parce que cet embryon est incapable de se fixer à lui-même des fins rationnelles qui seraient acceptables par d'autres. Or, ceci, c'est ça qui fait la personne pour eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la revue Esprit, qui est l'article de la revue Esprit écrit par un prof de droit et un médecin psychanalyste, qui sont, je ne sais pas s'ils sont croyants, mais ils montrent là que face à cette réaction de ceux qui tiennent pour l'autre opposition, pour le critère éthique, disant donc que l'embryon ne peut pas être une personne parce qu'il ne se fixe pas à lui-même ses fins. Donc le croyant peut rétorquer en disant « Oui, mais si l'embryon, même si l'embryon ne peut pas se fixer à lui-même des fins, Dieu, qui lui est assurément... » Il rentre, si vous voulez, dans le plan de Dieu, qui lui a des fins et qui lui est assurément une personne. Donc on voit là, c'est le seul moment dans l'article où est mentionné, si vous voulez, un regard de sagesse. Et on voit l'ébauche d'une éthique religieuse pointée. Parce que, donc, si vous considérez que, en tout cas, Dieu a des fins pour l'embryon, vous voyez que léser l'embryon, c'est manquer du respect dû à Dieu. Ou même si vous n'êtes pas croyant, en tout cas, une rationalité supérieure qui sous-tend le développement de cet embryon. Alors, on va voir un peu plus complètement la position inverse, opposée. Ceux qui tiennent pour le critère éthique. Donc, dans la littérature, donc, qui est souvent baptisé de courant relationnel. Alors c'est une position néo-kantienne qui reprend largement l'éthique de Kant. Donc c'est néo-kantien sur le problème de l'embryon, de savoir s'il y a personne humaine ou non, récuse en bloc le critère biologique. C'est-à-dire de dire qu'il y a personne humaine dès qu'il y a possession du génome humain. Et il faut remarquer par exemple que pour être une personne, il n'est ni nécessaire ni suffisant de posséder ce génome humain. Ce n'est pas nécessaire parce que, par exemple, vous considérez comme des personnes, par exemple juridiquement, des collectivités, des États, qui sont considérés comme des personnes morales. Et puis, ce n'est pas suffisant dans la mesure où on refuse de considérer comme des personnes, bon, c'est des évidences, mais ils veulent mettre ça en avant. On refuse de considérer comme des personnes nos cellules somatiques qui possèdent ce génome humain. Donc ils disent que le critère est complètement absurde. Surtout que maintenant, avec ce que fait la science, toutes nos cellules somatiques qui possèdent donc un noyau peuvent, par clonage, c'est ce que expliquait hier soir le professeur Giraud, donner naissance à un individu humain. Or, ça, on ne le considère pas comme une personne humaine. Enfin, c'est cette possibilité de clonage semblerait exister. Donc, vous voyez, alors que le premier critère, identifier personne humaine et vie humaine, à partir du moment où on voyait apparaître le génome humain, ceux qui tiennent pour cette seconde position disent que quand on respecte la personne humaine, ce n'est pas du tout, c'est tout autre chose, ça ils reprennent une phrase de Kant, que le respect pour la vie humaine. Donc on dissocie vie humaine et personne humaine. Et ça, c'est une phrase même de Kant dans la Critique de la raison pratique qui dit « Le respect pour la personnalité en l'homme est un respect pour quelque chose qui est tout à fait autre que la vie. » Donc en fait, vous allez avoir une définition éthique de la personne. De la personne, donc, ce qui pour Kant, dans l'éthique ancienne, doit être considéré toujours comme une fin et non seulement comme un moyen. Cette définition éthique de la personne repose, donc je l'ai déjà dit, sur l'autonomie du vouloir. Ce qui est mis en avant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit, qu'est-ce qu'une personne ? Personne, c'est un être raisonnable qui s'oblige à ne s'incliner, au point de vue moral, que devant une loi qu'il a posée lui-même. Et cette loi qu'il pose lui-même est une loi universalisable qui peut être reçue par d'autres personnes que lui. Donc, la personne humaine, elle a cette dignité en tant que législateur. Donc on parlera de la dignité du législateur pour lui-même, pour elle-même. La personne humaine, donc, est personne humaine dans la mesure où c'est un sujet libre qui juge par lui-même du bien et qui se prescrit des fins. Donc là, vous voyez que la personne humaine, elle est considérée non plus simplement comme un objet de la morale, mais comme une source de la morale. Et donc, ce qui fait respecter quelqu'un comme une personne, comme une fin, comme dirait Kant, c'est que cet être humain est à lui-même capable de se prescrire des fins. Vous voyez le jeu. Or, alors c'est là où c'est important pour l'embryon, le fait d'être capable de se prescrire rationnellement des fins, ça exige aucune capacité extraordinaire, dit Kant, mais, c'est-à-dire que ça se rencontre même chez des gens très simples, mais ce n'est pas donné à la naissance. Cela s'acquiert progressivement. Donc, cette dignité du législateur, vous l'avez au terme d'une éducation. Donc, vous voyez, on devient une personne humaine très progressivement, et en particulier au cours de l'enfance. Alors, vous voyez les implications éthiques pour l'embryon. Alors juste un mot pour dire que cette position néo-kantienne est en fait, elle est très actuelle. Il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement français en décembre 1988 qui permet l'expérimentation, même sans visée thérapeutique, sur des personnes incapables de donner un consentement, alors ça c'est l'expression de la loi, un consentement personnel et éclairé. Et en fait, sous-jacent, c'est cette conception, c'est-à-dire que on autorise les médecins à expérimenter sur des personnes comme les enfants, les malades mentaux, les vieillards ou les personnes qui sont en coma chronique, qui sont incapables de se fixer à elles-mêmes des fins, quoi, qui sont incapables de dire oui à quelqu'un qui veut expérimenter sur elles. Donc en fait, c'est cette vision-là qui est sous-jacente.
C'est la loi de quelle date ?
20 décembre 88. Alors, vous voyez, donc, dans cette conception-là, même l'enfant qui vient de naître n'est pas une personne. Donc, a fortiori, l'embryon. Et donc, c'est absurde de respecter l'embryon, parce qu'on ne respecte qu'une personne, on l'a dit au début. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, à la limite, le protéger comme on protège les animaux, mais pas le respecter. Vous voyez, bon, ces deux positions qui sont présentées un peu schématiquement, elles sont en complet désaccord. C'est les deux extrêmes. Et alors là où ça colle pas très bien, c'est que dans le domaine pratique, les deux positions jugent comme... chacune des positions, si vous voulez, juge comme complètement irrecevable des faits que dans la morale quotidienne, que dans la pratique quotidienne, la majorité des gens jugent comme complètement différentes. Bon, par exemple, ceux qui tiennent pour le critère biologique récuseront à la fois le fait de trier génétiquement les embryons avant de les réimplanter dans un utérus féminin, dans le cas de fécondation artificielle, ce qui est relativement accepté par une majorité de personnes. Et ils récuseront de la même manière l'avortement au cours de grossesse, ce qui est là beaucoup moins accepté. Et puis à l'inverse, les tenants de la position relationnelle jugeront les deux pratiques tout à fait acceptables. Donc, vous voyez, parce qu'on a dû légiférer en tenant compte de la pratique et des réactions de la majorité des gens dans des démocraties occidentales, on a dû élaborer une position médiane pragmatique. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, une espèce de voie moyenne, si vous voulez. Parce qu'au-delà du débat, il fallait bien légiférer, si vous voulez, il fallait bien réglementer ce qui se faisait. Ou il faut bien, parce que c'est en cours d'élaboration, c'est pas du tout fini. En France, il n'existe pratiquement rien aujourd'hui, comme législation sur l'embryon, à part sur l'avortement. Donc ce que je voudrais montrer d'abord, c'est comment cette position est pragmatique. Bon, vous savez qu'il existe dans les différents pays occidentaux des commissions d'éthique qui ont eu pour objet donc de fournir des conseils aux législateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces différentes commissions d'éthique suivaient à peu près le même cheminement. Elles ont été obligées de déterminer ce qui est acceptable, par exemple, corriger dans l'œuf humain une anomalie génétique, ce qui est complètement irrecevable et qui peut même être puni, par exemple, de faire des hybrides hommes-animaux. Et puis, position intermédiaire, ce qui est prématuré aujourd'hui, mais qui peut être exploré prudemment. Donc, par exemple, ce qu'on appelle l'ectogénèse, donc la grossesse entièrement en dehors du ventre de la mère. Donc voilà, on essaye de fixer, vous voyez, trois niveaux de règles. Ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas du tout se faire, et ce qui pourrait se faire. Et puis, là où c'est surtout intéressant, c'est que on accepte de fixer, puisqu'il est ici difficile de se mettre d'accord, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'il y a une personne humaine, mais on fixe des limites en sachant dès le départ qu'elles sont un peu arbitraires. Et c'est ce qui s'est fait en Angleterre, où le comité britannique a dit qu'on pouvait utiliser, a recommandé l'utilisation des embryons humains à des fins de recherche scientifique. Cette utilisation serait licite dans un délai de 14 jours après la fécondation. Pendant les 14 jours après la fécondation, on peut expérimenter scientifiquement sur l'embryon. Alors c'est une limite qui est complètement arbitraire, enfin pas tout à fait, en même temps. Elle est complètement arbitraire parce que rien ne nous dit qu'on n'a pas une personne avant et une personne après. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a été posée tout de même en fonction d'un certain seuil que les biologistes reconnaissent dans le développement de l'embryon, et ça on en a parlé hier soir. Le 14e jour, donc c'est le moment où apparaît la ligne primitive. On a vu une diapositive où on voyait cette ligne sur le disque embryonnaire. Et le 14e jour, c'est le dernier moment où peuvent se former des embryons, des jumeaux. Alors, en fait, il faudrait essayer de dégager, c'est ce qu'essaie de faire la revue Esprit, la philosophie sous-jacente à cette position pragmatique. Cette philosophie sous-jacente, il la baptise du terme d'abord d'ontologie progressive. Bon, c'est le bon sens, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'on dit que l'embryon est un être humain en développement. Mais ça a des conséquences morales importantes, c'est-à-dire qu'on considère que les obligations morales face à cette tête ne sont pas les mêmes selon les différents niveaux de développement. Vous n'avez pas les mêmes obligations morales, selon cette position, envers une cellule vivante, la première cellule embryonnaire qui paraît insensible, envers un fœtus de 5 mois qui lui est sensible, puis envers un enfant de 5 ans qui commence à exercer sa raison. Donc vous identifiez différents seuils et vous essayez de fixer les différentes règles morales en fonction de ces seuils. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on voit réapparaître une perspective plus aristotélicienne. La seconde notion philosophique sous-jacente, c'est, alors celle-là, elle a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de personne humaine potentielle. Cette expression vient du comité d'éthique, Comité national d'éthique en France, qu'il a utilisé dans ses recommandations. Donc, le comité d'éthique français a dit, l'embryon, c'est une personne humaine potentielle. C'est un sujet en puissance. Ça, c'est les expressions qu'il a utilisées, dont le développement vers l'être personnel a commencé. Vous voyez, on ne se mouille pas, mais on navigue entre les deux. Et donc, l'embryon acquiert, si vous voulez, progressivement les propriétés d'un être personnel. Alors, il y aurait une distinction qui commencerait à poindre dans l'embryon entre ce qu'il est dans son être singulier et ce qui, dans l'embryon, relève de l'espèce. Il semblerait qu'il y ait quelque chose comme ça. Dans un premier moment, chez l'embryon, ce qu'on respecte, c'est surtout l'espèce humaine. Donc, ce qu'en termes aristotéliciens, on pourrait appeler la nature humaine. Cette nature humaine en voie d'actuation. Et puis, dans un second temps, dans le développement de l'embryon, quand la forme humaine serait suffisamment actuée pour que l'embryon devienne co-auteur, vous voyez, de son développement, il ne serait plus simplement actué comme de l'extérieur par une nature humaine, mais lui-même commencerait à présider à lui-même à son développement. Alors là, l'embryon serait pleinement respectable dans sa singularité. Vous voyez, il y a toujours cette idée de progression et on essaie de regarder des seuils de développement. Bon, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, on se rapproche plutôt de la doctrine thomiste. Alors il est évident que ces approches mettant en lumière la progressivité du développement de l'embryon, elle est complètement refusée par les tenants des deux thèses extrêmes qu'on a vues d'abord. Pour ceux qui tiennent pour le critère éthique, le courant relationnel, ben pour eux c'est une mystification de considérer comme existant ce qui n'existe pas encore. C'est complètement erroné de parler de personnes humaines potentielles faisant croire qu'il faut déjà respecter ce qui n'est pas encore là. Et puis, pour ceux qui tiennent à l'opposé, pour la première position, le critère biologique, c'est la même indignation de considérer qu'il n'y a pas complètement, dès le premier moment, l'humanité. Ils disent que l'humanité n'est pas potentielle dans la première cellule embryonnaire, elle y est pleinement. Alors, vous voyez, cette position médiane, donc, s'efforce d'identifier différents seuils de développement. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de la revue Esprit, il montre qu'il est très difficile de penser philosophiquement de manière profonde cette position moyenne parce que les instruments philosophiques ont disparu. Les instruments philosophiques qui seraient adéquats ont disparu. Et ils citent eux-mêmes des instruments, des concepts aristotéliciens de substance, de puissance, d'acte, qui permettrait de comprendre le devenir et d'enraciner un peu plus profondément cette position. Et en même temps, vous voyez que cette position, finalement, elle se fonde sur les observations de la biologie. D'où les journalistes, enfin les auteurs de l'article demandent que la science soit davantage prise en compte dans la réflexion philosophique. Alors voilà, alors juste pour reprendre un peu, vous voyez donc que on a un premier courant sur ce problème de savoir comment considérer l'embryon, est-ce que c'est une personne. Une première position qui, je dirais, suit strictement ce que donne la biologie. Une seconde position qui, elle, prend beaucoup plus en compte l'observation de l'agir humain, donc une espèce de méta-éthique. Puis une troisième position pragmatique, on nous dit qu'elle aurait besoin, pour être davantage développée, de prendre plus en compte ce que dit la science, mais en fait, c'est surtout, il semblerait qu'elle doit, elle demande une réflexion philosophique plus poussée. Voilà. Oui, est-ce que vous avez des questions?
C'est une position qu'il faut aussi connaître. Tu en as parlé pour le 14e jour. Je crois que plus fondamentalement, on pensait davantage aux jumeaux qu'à la ligne primitive pour ce 14e jour. Et le raisonnement, c'est celui-ci, c'est qu'une personne est au moins un individu. Or, si l'embryon peut faire des individus, des jumeaux avant le 14e jour, il est donc divisible. S'il est divisible, il n'est pas indivisible. Et s'il n'est pas indivisible, il n'est pas individu. Et s'il n'est pas individu, il n'est pas une personne. Je pense qu'il est important de noter aussi tout ce raisonnement qui est passé aussi dans la revue Esprit, c'était tous les articles de Jean-François de Malherbe, qui sont un petit peu antérieurs, qui restent quand même un petit peu sous-jacents. Si en Angleterre, on demande la possibilité de manipuler des embryons jusqu'au 14e jour, c'est basé plus sur cette position que sur la ligne primitive ou sur des critères anatomiques quelconques.
Mais l'indivisibilité vient de l'apparition de la ligne primitive.
Oui, si tu veux, mais... Mais c'est le critère qui a été pris philosophiquement, c'est la divisibilité.
C'est la primitive qui rend compte de la non-divisibilité.
Oui, mais philosophiquement, on s'en fiche, ça.
Si,
si, non, c'est important, je suis d'accord.
Sinon, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de vie.
Oui, mais comment tu réponds à c'est la question philosophique, c'est la question philosophique qui nous intéresse. Que cette divisibilité est liée, oui ou non, à une personne.
Non, mais le critère des 14 jours, c'est bel et bien l'apparition de l'île primitive.
Qu'on parlait plus fort.
Non, d'accord, oui, on entend pas. Oui,
mais d'accord, mais c'est.
La réflexion philosophique, la critique que l'on a fait sur la non-personnalité de l'embryon, portait sur sa divisibilité. C'est ça qui nous intéresse.
C'est pour ça que le critère fondamental à la non-divisibilité, c'est l'apparition de l'île primitive. C'est un critère objectif au niveau biologique.
Oui, mais on ne situe pas seulement le problème. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on est d'accord.
Mais c'est qu'elle fondait là-dessus, oui. Même si la réflexion est par rapport à la divisibilité.
Oui, mais je suis d'accord sur le fondement médical.
Il y a une condition de divisibilité.
D'accord.
Quand la ligne primitive est là.
Je suis d'accord.
C'est le seul critère, la chronologie.
Oui, mais ça répond pas à la question.
Oui, d'accord.
Je crois que c'est est-ce que l'embryon est une personne dès avant.
Mais oui, mais le pourquoi des 14 jours vient de la ligne primitive.
Oui, d'accord. L'intervention principale.
Je suis d'accord. Mais ça répond pas à la question.
Oui,
il faut qu'on souligne cette question.
Il y a peut-être d'autres questions.
Est-ce que vous pouvez nous préciser le contenu de la loi de décembre 88 sur...
Je ne l'ai pas là, mais donc c'est l'autorisation qui est donnée au médecin d'expérimenter, même s'il ne s'agit pas de guérir un embryon d'une maladie décelée, un enfant ou un vieillard, on peut expérimenter sur lui, même si on est incapable d'obtenir son consentement. Alors, ce qui est dramatique, vous voyez, c'est parce que c'est qu'on n'a jamais discuté là-dessus.
On n'entend pas.
Ce qui est grave, c'est que la sécurité sociale a payé la banque.
Il y a une position qui n'est pas. Je crois qu'elle ne fait pas un courant actuellement, mais il y a des interrogations de biologistes qui, eux, ont réfléchi plutôt sur la mort et qui découvrent que la mort ne peut pas se déterminer par un moment. Et il reporte ça sur la naissance, en disant que la naissance d'un être personnel ou vivant ne peut pas se porter sur un moment. C'est-à-dire que on dit quand quelqu'un est mort, est-ce que c'est l'arrêt du cœur, est-ce que c'est l'arrêt du cerveau? Il y a des gens qui ont eu l'arrêt du cerveau et du cœur pendant plusieurs jours, qui sont revenus à la vie. On a maintenant des milliers de cas qui d'ailleurs donnent des témoignages d'une vie intérieure. Et ces gens-là reportent sur la naissance, de la même manière que je ne peux pas déterminer le moment de la mort, et qu'il y a mort quand même, mais quelque chose qui échappe au temps, de la même manière, il y a quelque chose qui échappe au temps au niveau de la naissance.